J'invite Gilles Boeuf à venir, je ne sais pas si je dois dire conclure, ouvrir, faire une synthèse à votre manière. Voilà, merci beaucoup.
Alors, moi, j'ai simplement noté quelques mots-clés au cours de la journée sur lesquels on va revenir. Et c'est vrai que la discussion de la fin, elle est typique là-dessus. Je vais prendre un exemple de choses qui me choquent au niveau économique. Je prends le cas du thon rouge. Moi, je l'ai vraiment vécu dans ma chair. J'arrive à Banyuls en 99. Le kilo de thon, c'est 3 euros le kilo du thon rouge, pêché dans le golfe du Lion. Les pêcheurs, les petits pêcheurs artisans pêchent du thon rouge depuis toujours. Les pêcheurs au gros, pour la récréation, pêchent aussi du thon de Vintimille à Cerbère. Et puis démarre la grande pêche hein, sur ces milieux particuliers, avec des grands seigneurs océaniques. Ils sont à 7, ils sont à Port-Vendre. Et puis on voit le prix du thon qui va monter. On voit qu'on ouvre en France à l'époque, entre 2001 et 2008, il s'ouvre un restaurant japonais par jour à Paris. Les types ont les yeux comme ça, ils ne sont pas forcément japonais, mais pour le français c'est bon. Hein. On vend du sushi, du sashimi. Et le prix du thon rouge s'envole. Et on voit les gens donc exterminer le thon rouge en Corse, en Sardaigne, au Baléares, on voit la flotte qui s'en va vers l'est de la Méditerranée. Hein. Moi, je l'ai connue en Sicile, à Malte, et on finit en Libye, avant la guerre de Libye. Et on voit des thons vendus, 2007, le premier thon rouge vendu à Tsukiji en janvier 2007, 280 000 euros, one fish. Hein. Ensuite, il y en a eu à 560 000 en 2010, et le record a été atteint l'an dernier, c'était il y a deux ans, juste avant Fukushima, il s'est vendu un thon à Tsukiji à Tokyo, 1,3 million d'euros. Et on en a vendu un à ce prix-là encore récemment. Ça veut dire que si je calcule par rapport à la masse de la femelle, qui sont plus grosses que les mâles, donc elles valent plus, et elles sont bien meilleures en lipides que les mâles, les femelles, c'est connu. Donc du coup, ils ont des poissons qui font au kilo 100, 150 euros, 200 euros le kilo. Et revenons à ce qu'est le poisson-thon au départ au centre de la Méditerranée, qui est le bien de nous tous. Le thon, il est aussi bien à toi qu'à moi, qu'à n'importe qui ici. Ça veut dire qu'économiquement, on accepte qu'il vaille zéro. Il vaut rien. Il vaut l'argent que j'accepte de mettre sur la table pour aller le pêcher. Quelques-uns se sont dotés d'outils pour le faire et récupèrent la ressource. C'est absolument inconcevable qu'on continue à vendre un thon à 1 million d'euros et que ce million d'euros serve à la personne qui l'a pêché. Alors que peut-être qu'il pourrait en retirer une rente, moi je veux bien, hein, et qu'il y ait les 99,9% qui reviennent à un système de compensation, de travaux sur les connaissances du thon rouge. Un exemple, sur le thon rouge toujours, Le Monde. Pourtant, Le Monde, il ne raconte pas toujours des bêtises. Hein, hein. Le Monde, décembre 2011. Un grand article sur le thon rouge au bord de l'extinction. Aucun scientifique n'avait jamais dit quelque chose de comme ça. Même pas les groupes associatifs non plus. Un an après, mi-décembre 2012, le thon rouge sauvé de l'extinction. Voilà, c'est ça la communication qu'on a aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on puisse s'y retrouver dans des choses qui sont comme ça? Et on revient à la question de la valeur et du prix. Ne mélangez pas, ça n'a rien à voir la valeur et le prix. Hein, là-dessus, Jacques Weber le répète tout le temps. Hein. Il parle de ce tableau que le Japonais avait acheté. Il voulait se faire enterrer dans son cercueil avec le tableau. Alors, il peut le faire de toute façon, pragmatiquement, il peut le faire. Mais il avait demandé le droit avant. On l'a dit, non. Le tableau, en fait, vous avez consenti à payer un prix durant une discussion avec un interlocuteur qui va consentir à payer ce prix pour en jouir durant sa vie. Ça ne vous autorise pas à partir avec. Vous pouvez le faire quand même. Hein, on ne va pas vous l'en empêcher. Donc, on a dit, voilà, le prix payé, c'est le prix pour jouir de ce tableau pendant le temps durant lequel vous êtes vivant. Puis après, il revient à la communauté du patrimoine général. Bon, donc ça, c'est très important de faire la différence là-dessus. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer à mettre des prix. Et si Virginie Maris, la philosophe du CNRS, j'adore son exemple, elle travaille sur un petit poisson, un petit truc qui vit dans le Colorado, mais vraiment super moche, hein, parce qu'il y a des espèces moches aussi. On vous montre des belles, mais il y en a plein de moches. Hein, et qui a un goût épouvantable. Et dit, et il faut la calculer, il faut effectivement 25 millions d'euros pour sauver le petit poisson, c'est un petit guilictis du Colorado. Va-t-on consentir à mettre sur la table effectivement ce prix-là pour sauver le guilictis? Alors qu'on a mis beaucoup plus d'argent pour sauver le couple de perruches qui restent en Nouvelle-Zélande, d'une espèce qui est en train de disparaître. Parce qu'ils sont extrêmement culpabilisés. Quand les Maoris découvrent l'île de Nouvelle-Zélande, on est en 1200. Hein. Ils reviennent de l'île de Pâques, c'est au retour qu'ils trouvent l'île, ils exterminent 1200 espèces d'oiseaux. Donc il y a un sentiment de culpabilité d'extinction d'espèces en Nouvelle-Zélande bien plus haut qu'ailleurs, en fait. Donc on a consenti ce prix pour sauver ces perruches. Quelle est la base génétique de deux perruches qui ont servi à fonder une population de perruches? On va les relâcher comment dans la nature? Est-ce qu'on peut faire ça pour toutes les espèces vivantes? Bien sûr que non. Donc tout ça, c'est des exemples très pragmatiques qu'on peut expliquer à tous les niveaux, du petit garçon, petit enfant jusqu'au ministre, hein, pour montrer qu'on a des questions très pragmatiques sur lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, mais qui nous montrent très bien, qui nous démontrent les questions qu'on peut poser aujourd'hui. Alors moi, je réagis sur aujourd'hui les questions de protection de l'environnement. Alors le mot conservation, moi, je ne l'aime pas du tout, parce qu'on ne peut pas conserver la nature. La nature, elle, c'est comme le mot équilibre. L'équilibre n'existe pas dans la nature. Ou alors, il est tellement fugace qu'il dure une fraction de seconde et qu'il évolue en permanence. Je parle d'harmonie. Oui, il y a une harmonie. Même quand un lion bouffe une antilope, il y a du sang partout, il a les moustaches pleines de sang. C'est un système harmonieux qui fait que c'est durable. Et on a eu des cas de relations entre l'humain et la nature au niveau exploitation harmonieux. La morue, c'est le plus bel exemple. Vous relisez Pierre Loti dans Pêcheurs d'Islande, 500 années de pêche à la morue. Rue de métier, rue de pêche. Hein. Ils travaillaient de leurs mains, ceux-là. C'était un métier très difficile. Et Terre-Neuve, ils avaient les deux riz, c'était à la rame. Hein. Les premiers aussi qui allaient s'attaquer aux baleines, aux harpons à la main sur un petit canot, le cachalot avait ses chances, il faut lire Moby Dick. C'est tout ça a été détruit par des systèmes différents. Tout à l'heure, je vous montrais la courbe de démographie avec le progrès technologique, tout ça est lié à ça. La baleine, en fait, est qu'a été les premiers stocks qui ont été éradiqués au niveau des pêches, ça c'est très clair. Alors là, il n'y a pas de grande démonstration. Ce n'est pas le changement climatique qui a fait disparaître les baleines entre 1800 et puis 1955. Hein. Parce qu'effectivement, on invente la machine à vapeur, donc les bateaux à vapeur, des roues à aubes au début, on part du nord-est américain, on part des ports de Scandinavie, on extermine la baleine franche arctique, quasi exterminée. Ensuite, comme on a des bateaux puissants, on traverse le globe, on va en Antarctique, on crée des stations baleinières en Nouvelle-Géorgie, aux Malouines, où il n'y avait personne, il n'y avait pas d'humains, hein. Il y avait des oiseaux et il y avait des baleines. Et là, évidemment, on les massacre. Alors, on s'attaque d'abord à des baleines qui ont le bon goût, lorsqu'elles sont harponnées, que le corps flotte. Ça, c'est génial pour l'humain. Hein. Vous la harponnez, elle flotte. Donc, il y en a 50, on tue les 50, et après, on vient les chercher. Il n'y en a plus. Alors, on passe à celles qui ne flottent pas. Ça, c'est un peu emmerdant que la nature ait fait des espèces qui ne flottent pas. Donc, il faut inventer un système de canon harpon à injection d'air. Et là, effectivement, il y a 90 cachalots, on les massacre tous. Et tout a été comme ça. Et on voit ça arrêter complètement durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait les chasseurs allemands qui étaient dans l'océan Atlantique, qui torpillaient tout ce qui passait. Donc on arrête de chasser la baleine. Et on voit les stocks des baleines qui se refont entre 1941 et 1947. Et ça repart du plus bel. Hein. On a une année, je ne sais plus laquelle, 30 000 baleines qui sont harponnées en Antarctique, sur des bateaux-usines qui ne reviennent même pas. Et tout ça pour faire des trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Nantucket, il y avait l'éclairage public, il y avait les corsets, quand vous avez des corsets, mesdames, ce n'était pas évident, hein, qui étaient faits effectivement avec des fanons de baleines, il y avait l'éclairage public avec, bien sûr, les lipides de baleines, et aujourd'hui, il n'y a aucune justification à massacrer des baleines. Et on me dit, avec les Japonais récemment encore, vous comprenez, tradition, il y a eu un documentaire terrible ces jours-ci sur les dauphins massacrés à Beishi au Japon, hein. Il n'y a aucune justification. On dit pêche scientifique. Attendez, je suis un scientifique. Il y en a beaucoup dans la salle ici. Moi, je juge un scientifique à l'aune de ce qu'il écrit, hein, ou ce qu'il raconte. Je cherche les papiers japonais qui parlent des baleines. Il n'y en a pas. Hein. Ça veut dire qu'il chasse des baleines et puis, en fait, il les massacre pas pour des raisons scientifiques. Tradition. Il y a Palombi, qui est un Américain qui est très connu, qui a écrit pas mal d'articles. Il est allé un jour au Japon. Il a fait quelque chose de totalement illégal. Il est allé dans un magasin, un restaurant qui vendait de la viande de baleine. Ils ont droit à 4 espèces. Hein. Il s'est fait un petit sac en plastique et il a ramené tout ce qu'il a bouffé dans le restaurant japonais. Et après, rendu aux US, illégalement, il sort ces morceaux de viande de baleine du Japon. Il passe ça en PCR aux États-Unis. Il y avait 13 espèces de baleines dedans. Toutes les trois quarts totalement interdites à la consommation, bien sûr, à la capture. Donc, de qui se moque-t-on? Et c'est là, il faut que nous sommes en guerre, hein, il faut que vous vous en rendiez compte. Hein, si on est là cet après-midi, c'est parce que nous sommes convaincus de cela. Hein, alors, c'est même pas une question de prendre un pouvoir, c'est d'amener les gens à se poser des questions qui ne se posent pas autrement. Et mon vrai débat en tout ce qu'on a dit aujourd'hui, surtout sur la fin, c'est comment on va convaincre? Comment on va aider dans la décision publique? Comment on va aider le monde politique à prendre les bonnes décisions vis-à-vis d'un public où finalement, à part nous ici, qui vient écouter une conférence? Qui va voir une exposition? Qui ouvre les pages environnementales d'un grand journal? Peu de gens, finalement. C'est toujours les mêmes, en fait. Hein. Moi, je fais une conférence, j'ai 1000 personnes, on m'aime bien, très bien, mais tous ceux qui sont dehors, qui ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Et comment on touche ces gens-là? Et là, on a un problème dramatique, c'est le problème de l'enseignement de ce qu'on explique depuis ce matin ici à la télévision. C'est une catastrophe. Les émissions dites scientifiques ne sont pas des émissions scientifiques. Ce sont des émissions en fait, de technologie. On regarde la technologie, ça s'appelait, le type qui a inventé un système pour lutter contre son pétrole. Mais il n'y a pas de science. Comment voulez-vous que les petits-enfants aient envie de faire de la science? Alors, depuis les mouvements des scientifiques, en plus, on a vu qu'ils ne gagnaient pas grand-chose. En plus. Bon, ils se baladent, ça c'est vrai. Donc ça s'appelait. Vous gagnez combien? On fait souvent des forums avec les enfants. Oui, scientifiques, vous faites quoi comme métier? Bon. Alors vous gagnez combien? Première question, alors, on va à l'économie. Combien vous gagnez? Alors, vous gagnez que ça, bon, c'est pas terrible. Et puis vous voyagez, oui, on voyage. Ah bon, bah, ça c'est quand même assez sympa. Hein. Et on voit les filles intéressées par ça, les garçons de moins en moins. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas où sont les garçons, parce que moi j'enseigne à l'agro à Paris, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, à la faculté des sciences à Jussu, bien sûr, et à l'agro Paritech. J'ai 75% de jeunes filles. Je suis ravi. Hein. Je serai amoureux à chaque fois. Le problème, c'est où sont les mecs? Alors pour débarrasser nos parasites, on a dit ce matin, on me dit ils veulent être traders. Oh, je ne sais pas. Et on revient à ces questions qu'on évoque ensemble ici aujourd'hui. Donc tout ça, c'est... Tenons compte de tout ça. Et revenons aux questions du monde politique qu'on me pose en permanence. Les ministres de l'écologie, je les rencontre régulièrement, de par mes fonctions, me parlent de bon état d'un écosystème. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le bon état d'un écosystème. Quelle est la référence par rapport à quand, dans quelles conditions, hein, pour en discuter. Hein, on peut voir des perturbations, on peut dire des choses. Hein, quand on a vu des esturgeons s'effondrer, effectivement, en stock, hein, ou le saumon atlantique, oui, mais bon, c'est compliqué. On me parle de compensation. Ça, c'est un terme très compliqué, en fait, scientifiquement, pour un écologue. Comment va-t-on compenser ? Et moi-même, je suis au conseil scientifique de la Caisse des dépôts et conciliations. On fait tout dans ce métier. Hein. Ça veut dire qu'on essaie de réfléchir sur un industriel détruit une tourbière à Lille. Comment il compense en achetant un terrain dans la plaine du Var ? Alors ça, pour un écologue, c'est dédié, on peut réfléchir longtemps. Alors il dit oui, bon, d'accord, alors on va le vendre le plus cher possible pour que le type il ait plus envie de détruire ses tourbières dans le nord de la France. C'est ça le genre d'argument. Hein. Ou alors des arguments, excusez-moi, un peu particuliers, où on me dit, voilà, alors, la forêt amazonienne, oui, par kilomètre carré de forêt, il y a 700 arbres, et il y a deux arbres qui sortiront, qui quelque part un jour, dans l'évolution de la recherche, amèneront à un produit pharmacologique d'intérêt, qui rapportera combien ? On calcule. Alors voilà, je ne détruis pas le kilomètre carré de forêt tropicale en Amazonie, parce que je me prive putativement d'un médicament que je vais découvrir dans 10 ans. Bon, si ça marche, moi, je suis prêt à me prostituer, à faire tout ce qu'on veut. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit effectivement les meilleurs systèmes pour sauver cette diversité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve des valeurs qui sont en dehors de ces valeurs marchandes qu'on évoque. Alors, autant je ne suis pas du tout, moi, convaincu de la monétarisation. Simplement, encore une fois, pragmatiquement, si ça peut nous aider, allons-y. Je ne suis pas un écologue qui refuse a priori ce genre de démarche. Ce qu'il faut, c'est une cohérence dans les démarches complètes. Compensation. On a parlé aussi d'équivalence. Équivalence écologique. Alors, est-ce qu'il y a une équivalence entre un morceau de toundra, effectivement, au Kamtchatka, et un morceau de forêt tropicale au Pérou ? Pas les mêmes systèmes. On me dit aussi, tu sais, il y a des populations qui sont très protectrices de leur environnement, qui conservent. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une conférence internationale, maintenant, on amène des Amérindiens, ça fait super classe, hein, des gens, des Dayaks de Bornéo, qui ont des plumes, des tas de trucs, et tout le monde pleure sur ces pauvres malheureux, pour lesquels le monde moderne détruit leurs forêts. Ils l'ont fait avant. Alors là, vous savez, Rousseau, il prend un sale coup, hein, mais le mythe du bon sauvage, depuis que l'humain, en fait, depuis ce néolithique est devenu technique, intelligent, agressif, ingénieux, il s'est servi lui-même. Il a éliminé tout ce qui ne lui rendait pas service. Et puis, c'est vrai qu'il est entré en compétition avec des systèmes. Et on montre aujourd'hui, récemment, d'un papier dans Neurone. Neurone, ce n'est pas une revue d'écologie. Hein. Il montre que l'humain est une espèce particulière animale qui, confrontée au pire problème, garde de l'espoir. C'est génial pour Homo sapiens, ça. Et ça explique notre succès. Mais pour les autres, c'est un petit peu embêtant. Donc tout ça mis bout à bout doit nous amener un petit peu à nous poser des questions particulières. Et je prends un exemple. En ce moment, on termine le musée de l'homme à Paris. Alors on a un site prodigieux, le Trocadéro, le Palais de Chaillot. On a réouvert les fenêtres sur la Tour Eiffel. Avant, ils avaient fermé ça. Je ne comprends pas comment Rivet avait fermé les fenêtres du côté Tour Eiffel. Quand vous alliez au musée de l'homme, on ne voyait pas la Tour Eiffel. Donc on a réouvert ça, ça va être beau. Bon, j'ai réussi à avoir, mais alors, en travaillant des années, on a eu 90 millions d'euros. Alors que le rond-point de l'aéroport de Perpignan vaut 164 millions d'euros. On me dit, il n'y a pas d'argent pour faire un musée. Alors que les ronds-points, il y en a partout. Bon, très bien. On fait ce musée. Le bas, facile, les fossiles, l'histoire de l'homme. Et la France, elle a tous les fossiles éponymes. On a le crâne de Cro-Magnon, d'un néandertalien, l'homme de la Ferrazie, la chapelle au sein, on a l'homme de Totavel. Donc là, pas de problème. On met les vrais, les originaux. Tout le monde va venir rêver devant la gradation des humains, des préhumains de 3 millions d'années, les Homo habilis, et puis on va suivre les Néandertaliens, les Sapiens. Le second étage, là on est en plein autre discussion, l'humain dans la nature aujourd'hui. Comment on traduit ça muséographiquement, avec un vrai discours qui passe, sans être idéologique, hein, il faut bien voir, et très capable de changer. Hein, vous savez très bien que tout change très vite, hein. Il y a un papier récemment qui est sorti, il y a deux mois, qui nous dit en fait que, vous savez, il y avait l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. Pourquoi est-ce que les femmes se mettent à faire beaucoup de bébés il y a 10 000 ans ? Est-ce que c'est parce qu'on a commencé à s'arrêter, donc effectivement on s'arrête et on invente agriculture et élevage ? Ou alors est-ce qu'on a commencé à faire des bébés parce qu'on avait déjà inventé ça avant ? Hein. Donc, de toute façon, on ne savait pas trop. Et là, maintenant, il y a quand même pas mal de travaux qui démontrent que, visiblement, les humaines avaient commencé à faire beaucoup de bébés avant qu'on s'arrête pour faire élevage et agriculture. Donc, ça a été la deuxième solution qui était la bonne. Et ça, c'est très compliqué. Et tout ce qu'on discute ici rejoint cela. La pêche, on en a beaucoup parlé, parce que c'est vraiment quelque chose où là, on peut tout sauver, la pêche. Le climat qui change, c'est foutu. De toute façon, c'est parti. Simplement, plus on va prendre du temps à prendre des mesures et plus on va payer les conséquences longtemps, il faut qu'on s'adapte, ça, c'est clair. Mais la pêche, je suis désolé, il y a plein d'exemples. La pêche, elle est parfaitement récupérable. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec quel courage politique ? Les mesures, on les connaît. On ne peut pas imaginer un système de non-accès limitation d'accès à la ressource. Il faut bien faire avec les pêcheurs. Hein. Moi, je dis toujours, je ne suis pas du tout un anti-pêche. Je suis un anti-pêche stupide. C'est tout à fait différent. Et le chalutage n'a pas fait beaucoup de bien au monde de la pêche. Même mes amis marins pêcheurs de Port-Vendre, quand ils voient ces grands seigneurs océaniques qui donnent une image de la paire extrêmement dramatique, sont très meurtris dans leur chair. Hein. Rendons aussi leur noblesse aux agriculteurs. Hein. Qu'est-ce qu'on boufferait tous les jours s'ils n'étaient pas là? On n'arrête pas de tirer dessus sur un système dont ils sont otages. Donc tout ça, il faut le prendre en nuance, et je pense que le monde politique doit prendre ça en compte. Hein. Donc c'est compliqué pour répondre aux questions. On protège les espèces ou les écosystèmes? Vous avez vu que je pense très clairement vers un système ensuite. On sauvera le panda si on sauve les forêts de bambou de Chine. Hein. Sinon, le panda, moi je m'en ai gorille de montagne, on travaille beaucoup dessus en Ouganda, il en reste 800. 800, c'est pas beaucoup. C'est la guerre au Congo. Je vois les réfugiés qui, tous les jours, on a 3000 réfugiés qui passent du Congo en Ouganda. En Ouganda, on parle anglais, ils parlent français, ces réfugiés. Hein. Quelque part, ils ont été en contact avec la France et la Belgique à l'époque. Quelle est la chance des gorilles de montagne dans ces écosystèmes qui se rétrécissent tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait? Militairement, on y va, on met des miradors, on protège les gorilles de montagne sans se préoccuper de la démographie des populations locales, sans s'occuper d'eux. Ce qu'on a fait quand on a fait Yellowstone, hein, vous vous rappelez les termes de l'époque, on met surtout la nature à l'abri des sauvages. Il fallait une nature d'usage, hein, pour les Blancs qui étaient arrivés là. Et on a éliminé les Amérindiens qui vivaient effectivement dans l'enceinte du parc en question. Alors, ou alors les gorilles de montagne, ben écoutez, on dit c'est foutu là-bas, attention, la forêt se rétrécit tous les jours, je vais les sauver dans le Larzac. Je ne sais pas s'ils seront d'accord, moi, les gorilles de montagne, j'en sais rien. Hein. Mais c'est des vraies questions qu'on va avoir en permanence tout le temps. Et c'est là que l'économie peut nous apporter quelquefois du bon sens, ça peut arriver. Moi, j'y crois quelquefois. Et surtout, sans vouloir effectivement tout ramener à des valeurs. J'ai une image très jolie, là, je ne peux pas vous la passer, d'Atram vert et Atram bleu. Et c'est un saumon américain qui est dans la rivière, il y a une grosse inondation, il est sur la route. Il dit, ben, la prochaine fois, je vais choisir la trame verte à la place de la bleue, en fait, parce qu'il est coincé sur sa route, parce que la rivière a débordé. Donc tout est comme ça. Et l'écologie, c'est ça. Hein. Et l'écologie, ce n'est pas uniquement ce qu'on imagine sur, comme on dit toujours, le petit oiseau à point bleu ou la limace à point rouge. C'est beaucoup plus complexe que ça, et on est profondément dedans. Espèces invasives, on en a parlé. Encore une fois, je vous disais ce matin, on peut tout avoir comme réaction. Soit tout laisser faire, soit assister à quelque chose qui s'est déjà produit. De toute façon, on ne peut pas les arracher, de toute façon, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Ou alors, on peut imaginer l'intolérance totale. Les Américains ont arraché de façon très sauvage au début, quand est arrivée Coleherpa taxifolia. Chez nous, elle est là, elle s'en va toute seule maintenant avec le temps qui passe, on l'a évoqué ce matin. Hein. Et par contre, on a Racimosa qui nous pose des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Moi, la seule fleur que j'ai dans mon jardin à Bagnous aujourd'hui, en ce moment, ces jours-ci, là, c'est le Senson du Cap. Alors bon, il est venu dans les laines de moutons qui ont été amenées à Montpellier par des gens qui amenaient des moutons dans les années 1940. À Montpellier, il y avait un gros centre de traitement des laines de moutons du monde entier. On amène 130 plantes du monde entier à Montpellier dans ces années-là. Certaines deviennent des vrais problèmes de l'époque. Il en reste 10 qui posent des problèmes aujourd'hui. Parce que dans une laine de mouton, il y a des tas de trucs qui se baladent, effectivement. Et tout est comme ça. Ce couple qui ramène d'Uruguay, ça, des 1930, la fameuse ambroisie d'Argentine et d'Uruguay, ils étaient contents. Hein. Tous les deux, ils sont rentrés, là, le couple, ils avaient une jolie fleur qu'ils ont mis dans le jardin. Ce truc est sorti du jardin, évidemment. Il a commencé à envahir la vallée du Rhône. Il est sur la vallée de la Loire, il est partout. Le problème, c'est que quelques grains de pollen de cette plante-là collent une crise d'asthme à 15% des Français. Donc, vous voyez que tout ça, il faut le prendre comme ça. Alors, mais où je suis assez d'accord, c'est que est-ce que non entretenu par l'humain, ça va se maintenir très longtemps? Moi, je me rappelle les Russes qui ont amené les premiers saumons, Eric, de l'océan Pacifique en péninsule de Kola. Pendant des années, pendant 30 ans, ils ont amené des saumons du Kamtchatka en péninsule de Kola. C'était la terreur des Norvégiens qui pêchaient dans leurs filets en Norvège des oncorhynchus du Pacifique avec leurs saumons atlantiques. Et dès le moment où on a arrêté d'amener des saumons du Kamtchatka, ils ne sont pas maintenus, ça ne s'est pas maintenu. Et tout ça, en fait, pour vous montrer qu'on peut avoir de l'harmonie, la pêche à la morue, je répète, hein, qu'est-ce qui a détruit la morue, après 500 années d'harmonie, c'est quelques chalutiers industriels entre 1988 et 1994. Et la morue, bah, est partie, et elle a du mal à revenir, parce que bah, vous savez que la nature a horreur du vide, quand un truc est parti, avant qu'on puisse se réinstaller à la place, les chaînes trophiques les ont remplacées. Hein. On a vu des choses incroyables sur les fermes de ranching aux États-Unis. On lâche des milliards de bébés saumons en mer. Le Japon, la Russie, le Canada, les États-Unis. Et on crée une pêche qu'il n'y avait pas en Alaska. Aujourd'hui, on estime que 70 à 90% des saumons coraux pêchés en mer en Alaska sont d'origine humaine. Ils sont partis des closeries, tout petits saumons qui partent. Et on se rend compte maintenant qu'ils reviennent de plus en plus petits. Ça veut dire quoi, quoi? Même malgré l'immensité de la cage d'élevage qui est tout l'océan Pacifique Nord, eh bien, on commence à saturer les zones, effectivement. Donc, tout est un problème de mesure, et c'est ça un petit peu qu'on oublie dans les discussions qu'on a ici. Alors, bien-être. Alors, en plus, bien-être, c'est compliqué quand on parle à nos collègues anglo-saxons. Ils ont deux mots. Ils ont welfare et well-being. C'est pas la même chose. Et ça, je pense qu'en France, on a du mal à imaginer cela. Et moi, j'aime bien ce papier dont je vous ai parlé ce matin, écrit dans The Lancet par Mitchell et Popham en 2009. Ce sont des médecins anglais qui ont regardé vos types de durée de vie, les maladies que vous aviez passées 60 ans, le bien-être aussi, bien entendu, comme ils pouvaient le mesurer. Je préfère que le bien-être soit mesuré par des médecins que par le type qui dit qu'il est en bonne santé. Hein. Parce que quand on parle effectivement aujourd'hui que la durée de vie a diminué très peu au niveau de... Enfin, elle diminue, alors qu'avant, elle augmentait 3 mois tous les ans, depuis 100 ans, c'était comme ça. Hein. Et on voit que la vie en bonne santé aurait tendance à diminuer. Mais sur une enquête, et là, c'est extrêmement subjectif. On demande ça à un vieux Sénégalais, il lui manque une jambe, il a plus de dents, il dit oui, moi je suis en bonne santé. Et on demande à un type à Paris qui a deux bagnoles et tout, qui a mal au dos, il dit non, je suis pas en bonne santé. Alors, il faut faire extrêmement attention, bien sûr, hein, à l'enquête que l'on va mener pour décider si on est en bonne ou en mauvaise santé. Mais fait par un médecin, on peut le faire. Donc ça veut dire que tout ça est complètement lié. Ensuite, on a parlé de la transversalité. Alors les langages d'interface, pour moi, c'est fondamental. Que toutes ces questions qu'on se pose ici, là, la biodiversité, bien entendu, hein, ce n'est pas du tout une science, hein, c'est une situation sur laquelle on travaille, sur laquelle on réfléchit. On peut très bien, pour des raisons éthiques, par exemple, je reviens en baleine, il y a des gens, j'ai des amis, pour lesquels la baleine est sacrée. Ça veut dire que je m'interdis d'en manger même un gramme, parce que c'est comme manger de l'homme pour eux, en fait. Hein. Je ne mangerai pas de l'humain, même si on m'en donnait un morceau, parce que c'est un animal qui est sacré, donc je ne veux pas le manger. C'est parfaitement respectable. Hein. Mais cette attitude-là, à un type qui dit la baleine, de toute façon, dans ma tradition, on la bouffait, et c'est pas qu'il la mange, c'est qu'il fait des aliments pour les chats. Avec. C'est là qu'on peut... Aujourd'hui, il n'y a aucune justification de la chair de baleine. Je regardais récemment un restaurant japonais, il y avait une grande pancarte. Qu'est-ce qu'on fait avec une baleine? Ils faisaient des raquettes de tennis et des préservatifs avec des baleines. Alors, il y a quand même d'autres moyens de faire des raquettes de tennis et des préservatifs que d'aller massacrer les plus grands animaux que la nature ait jamais inventés et qu'on a la chance d'avoir encore avec nous aujourd'hui. C'est ça, cette futilité que j'attaque, cette cupidité, en fait. Elle est à ce niveau-là. Hein. Alors après, on a parlé des sites Natura 2000, des PNP avec les maraîchers, des trames vertes, trames bleues. Ce sont des outils qu'on essaie de mettre en place, pragmatiques, entre des données scientifiques accumulées par les chercheurs. Est-ce que des régions, des départements, des régions, un État peut faire pour améliorer la situation? Je pense que tout est bon à prendre. Hein. Natura 2000, moi, je l'ai bien vécu dans mes Pyrénées orientales. Ça a été très, très mal accepté par les pêcheurs, par les montagnards au début, parce que ça a été très, très, très mal communiqué. En com', il est nul, l'État français. C'est une catastrophe. Hein. Les boîtes de com', ici, sont bien meilleures que ça. Et maintenant, ils sont très contents, en fait, que ça puisse exister, puisque ça va contribuer quelque part, effectivement, à pérenniser un patrimoine qu'on évoquait tout à l'heure, en le respectant. Et le respect est absolument fondamental là-dedans aussi. Science participative, moi, je suis un fanat, puisque j'ai fait le rapport pour la ministre en 2012, en expliquant comment... Mais n'oubliez quand même pas une chose, dans le mot « science participative », il y a aussi la science. Et j'ai connu les deux extrêmes. J'ai connu des scientifiques qui m'ont écrit quand on a lancé Spipol. Spipol, vous savez, c'est un petit garçon, une petite fille, qui se met devant une fleur et qui prend des photos pendant 20 minutes. Il y a un protocole. Tout à l'heure, la jeune fille parlait de protocoler ou pas protocoler, c'est ça. Et on regarde d'abord la fleur, sur quelle espèce elle est, hein, on a des photos, et qui est venu butiner sur la fleur. Et c'était très riche. On a sorti un papier dans PLOS One au bout de 2 ans avec ça. Donc un très grand apport des sciences participatives. Et j'ai des Belges qui m'ont écrit. Des entomologues belges en me disant, monsieur le Président, vous faites faire de la pseudo-science au muséum parce que vous associez des participatifs. Parce que les oiseaux, bon, quand on en connaissance, c'est pas mal, on fait le tour. Les pollinisateurs, il y en a 1200 en France. Cette arrogance, elle est aussi à mettre de côté. Ou alors, maintenant, le participatif qui me dit, bon, le chercheur, moi, maintenant, je suis bien meilleur que les chercheurs, je me libère tout seul et je publie tout seul. Je pense qu'il faut un profond respect mutuel pour qu'on continue à travailler ensemble. Et n'oubliez jamais une chose en sciences participatives, c'est que séduire, c'est assez facile. Garder, fidéliser, c'est autre chose. Et pour ça, il faut qu'on restitue. Avec les pêcheurs de saumon, je me rappelle avec M. Prouzet en Bretagne, hein, on allait à la fête des pêcheurs de saumon. Les types nous ramenaient quelques écailles de chaque saumon pêché. Certains faisaient une prise de sang. Alors, instrumenter dans le bon sens du terme des pêcheurs ou des chasseurs pour faire ça, il faut une très grande confiance pour faire ça. On restituait des données, ils voyaient à quoi ils contribuaient, eux, à manier leurs ressources, et ça marchait très bien. Donc, il faut un langage d'interface avec un profond respect. Qu'est-ce que je voulais encore aborder? Les services marchands, non marchands, ça, effectivement, on en a parlé, on revient effectivement à ces aspects de l'économie et de l'écologie. Ce que je voudrais au niveau de l'économie, en fait, nous, on est extrêmement contents, écologues, quand des économistes viennent avec nous. On en a besoin. On a besoin parce qu'on n'est pas économiste, on est désespérément perdu. On se rend compte que pour convaincre sans données économiques, c'est très difficile. L'éthique est là, on oublie l'éthique. Hein. On n'a pas parlé d'éthique pendant cette journée. Alors, ça devrait être le premier moteur pour travailler. Pourquoi j'accepte, moi, de faire disparaître des espèces qui étaient là? Et pourquoi mes petites filles n'auront pas droit à l'espèce que moi j'ai connue à l'époque? C'est une vraie question. Hein. Et on donne accélération croissante, puisqu'aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 300 fois plus vite que ce que le vivant avait connu, malgré les crises d'extinction, sur 500 millions d'années. Donc ça, c'est une question intéressante à poser, bien sûr. Alors après, sur l'histoire de choisir les espèces qui vont disparaître ou pas, alors là, ça, c'est totalement du pipeau, parce qu'on est incapable de le faire. Et quand on me dit, moi, les moustiques, je vais les éradiquer, mais je vais garder les jaguars, le jaguar est en voie de diminution très forte. Tous les grands prédateurs, il n'y a plus de place sur cette planète à 7 milliards de manœuvres pour ces grands prédateurs. Et il y a un beau papier dans Nature cette semaine qui montre le rôle écologique du lion, du tigre, des panthères, des hyènes qui sont en train de s'effondrer. Les éléphants aussi, on les massacre aujourd'hui à la Kalachnikov. La chance de l'éléphant là-dessus, elle est quand même très limitée. Hein. Donc tout ça, c'est à nous, il n'y a que éthiquement qu'on peut les sauver. Éthiquement, alors pour un plaisir, effectivement, qu'on pourrait négocier au niveau économique, d'aller visiter une réserve et un parc et d'avoir le droit, non pas de tirer dessus, mais de faire des photos. Parce qu'aujourd'hui, on justifie la mort d'animaux comme ça. On me disait en Namibie récemment, tu donnes 40 000 euros et je peux tuer un éléphant. Il y a des types qui font ça, c'est encore des mecs, il n'y a pas de femmes qui font ça, c'est toujours des mecs. J'ai vu une femme sur 10 000 types. Donc je mets 40 000 euros sur la table et j'ai le droit de tirer sur un éléphant à 300 mètres avec une balle blindée. Je l'ai chassé au couteau, bon, je veux bien que l'éléphant ait ses chances de s'en sortir, hein, mais pas dans ces conditions-là. Et on me dit, ça aide quand même les populations locales. L'argent est redistribué aux populations de Namibie et ça aide à regérer le stock. J'en doute très fort. Hein, quand je vois comment on paye aujourd'hui les permis pour aller voir les gorilles en Ouganda, c'est que du cash. C'est mis sur la table quand on arrive et ça part dans des poches. Donc je voudrais bien savoir où va l'argent que l'on met sur la table, c'est entre 500 et 3000 dollars hein, pour aller droit d'aller passer 2 heures à voir des gorilles sauvages qui sont habitués à voir des humains. Et les éthologues de gorilles m'ont dit qu'ils sont tellement habitués maintenant qu'ils ne changent pas leur habitude de vie et on peut les approcher à quelques mètres. Hein, bon. Donc ça, est-ce que c'est intéressant? L'Ouganda avait calculé qu'un gorille d'Ouganda, c'était 1 million d'euros par an sur la table, cash, mais dans les poches de quelques-uns. C'est là, effectivement, qu'on revient à la distribution de la ressource qu'on évoquait tout à l'heure. On a parlé des listes d'espèces ce matin, on a dit ce qu'on en pensait, c'est pas inintéressant, c'est bien qu'on en ait, mais c'est largement insuffisant pour préciser ce qu'est la diversité biologique, bien entendu. Je vais conclure après. Alors les indicateurs, ça c'est une vraie question, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'aujourd'hui c'est là effectivement qu'il faut qu'on fasse des efforts, les écologues, le monde associatif aussi, tout à l'heure la jeune fille avait raison de dire qu'on regarde ce qui se passe. Quand on a beaucoup de données, le papier qu'on a fait dans Nature Climate Change en janvier 2012 sur oiseaux et papillons, c'est 10 000 personnes, et c'est 10 000... Attendez, j'ai oublié des bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est plus de 100 000 heures d'observation. C'est robuste, hein, ça. Un statisticien ne peut pas démonter ça. Et on montre que les oiseaux ont fait 33 km vers le nord en 19 ans, et les papillons 114. C'est un élément fort, le changement climatique. On ne leur a pas dit que le climat changeait, eux. Hein. N'empêche qu'ils sont partis vers le nord. Et c'est comme ça un petit peu partout. Je pêche maintenant devant mon laboratoire à Bayouz et de Radcorifène, le Mahi-Mahi. Ça fait 120 ans que le labo est là. Et croyez-moi, on regarde d'eau de mer depuis 120 ans, jamais vu une dorade coryphène. Et tous les ans, maintenant, au mois d'août, on m'amène des dorades coryphènes. Donc il y a bien des changements, des migrations qui indiquent que la faune sauvage hein, réagit à tout cela. Alors ceux qui bougent vite, ça va, hein, parce qu'un thon, il peut nager à 100 km/h. Le ver de terre, il aura du mal, effectivement, il va essayer de changer, mais c'est pas très facile. Et nos migrateurs sont très affectés, bien sûr, par ces questions-là. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses importantes. Quel indicateur on va générer? On sait maintenant que les deux grands indicateurs du progrès, qui étaient le PIB d'un côté et l'espérance de vie de l'autre, sont battus en brèche. Le PIB n'est plus du tout un indicateur de bien-être aujourd'hui. Je pense qu'il a pu l'être dans les années 50, quand on regarde, mais pas aujourd'hui. Il faut qu'on trouve autre chose. Alors, on a parlé de différents indicateurs ce matin, indicateurs de bien-être, indicateurs de niveau social, d'échange, de partage. Là, il y a vraiment un vrai débat qui est ouvert. Et ce n'est pas un travail que d'écologues, ça. Là, il nous faut des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des économistes qui travaillent avec nous sur des questions comme ça. Et puis la société civile, bien sûr, hein, elle doit travailler conjointement pour qu'on ait de vrais critères. Et quand on aura les critères, on fera des scénarios. C'est ça qu'il faut qu'on donne au monde en fait, politique aujourd'hui. C'est écoutez, vous prenez telle décision d'assécher telle zone humide, il va se passer ça. Hein, si on fait passer la route dans la forêt 33, il va se passer ça. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et là, il y a un vrai travail de recherche qu'il faut vraiment, vraiment codifier. Moi, j'avais tiré les conclusions du colloque de l'ANR. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Et donc, en décembre 2012, on fait le colloque de 8 années de paiement par l'agence de travaux sur l'environnement en France. Et moi, je m'occupais bien sûr de la partie biodiversité. Et les questions, elles sont là. C'est qu'est-ce que les écologues doivent prendre à bras-le-corps comme projet demain? En respectant l'écologie en France, où on a très peu quand même, nous, de possibilités par rapport à d'autres disciplines, hein, Il y a beaucoup plus de chercheurs sur le diabète en France que d'écologues. Hein. Donc on se sert effectivement... Alors, encore une fois, je ne prends pas parti, je vous donne des faits, simplement. Hein. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on décide effectivement de lancer? Et la science écologique est la plus belle de toutes. C'est la science des relations entre les êtres vivants. Ça, je le répète au ministre tous les jours. Hein. C'est un sacré boulot. Hein. Alors, pendant 4 ans, je le persuade, on change les ministres et ça repart. Alors j'ai regardé, vous savez, les ministres de l'écologie en France, 28 depuis le vieux monsieur Poujade, qui était le premier ministre de l'écologie en France, ministre du président Pompidou, en 71. La France invente un ministère de l'écologie, après on a inventé le mot développement durable. 28. La variable d'ajustement chez les ministres, justement, c'est les ministres du développement durable pour régler nos questions. 3 en un an et demi, là. De qui se moque-t-on? Donc il y a un vrai combat qu'on doit effectivement poursuivre. Hein. Local, global, ça c'est un vrai débat aussi. Il est clair que pour l'humain qu'on veut convaincre, il est localement, on vit tous localement. On ne vit pas dans un avion en l'air en permanence. Donc je pense que l'aspect local est très important. Les gens voient ce qui est chez eux, ce qui change chez eux, ils aiment ce qui est chez eux. Hein, comme les Brassens, tous ceux qui sont nés quelque part, vous rappelez la chanson. Alors après, on est chauvin ou pas chauvin, après c'est autre chose. En tout cas, on est local, bien partir de là. Et après, il faut bien réfléchir au fait qu'on peut très bien localement avoir très belles actions et perdre le bénéfice de ces actions par les changements globaux. Il ne faut jamais oublier ça. Et sur les migrateurs, c'est tellement typique. Hein. Donc il faut aussi des mesures globales. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à quelque chose qui n'est pas au bout de son jardin. Et ça, c'est difficile en France. Et je vais revenir à Viginature, où on a différents aspects participatifs. Il y en a qui marchent très bien, d'autres pas très bien. Alors ça marche bien en Angleterre. Par exemple, la phénologie, c'est le fait de regarder des événements en fonction de la position dans l'année avec le climat. Quand avez-vous ramassé le premier pruneau à Agen? Quand avez-vous fait votre première vendange? Quand avez-vous ramassé votre première prune? Quand avez-vous vu la première hirondelle? Ça, en Angleterre, ça marche super bien, moins en France. En France, papillon de mon jardin, alors là, je ne vous raconte pas. Ça, alors là, les Français... Parce que toujours le Français, il va trouver un truc dans son jardin qui n'est pas dans celui d'à côté. Et ça veut dire que là, il faut tenir compte du monde latin. Hein, moi, je ne suis pas latin, dites-moi un peu ce que je suis pas tellement viking. Hein. C'est très important, donc ça marche différemment selon les pays aussi. Les protocoles en Angleterre ou aux États-Unis ne sont jamais discutés. Une fois qu'il a été mis en discussion avec les participatifs, on ne vient plus dessus. Ici, je ne vous raconte pas tous les jours. À quoi vont servir mes données? Si je vous les file, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et puis, est-ce que je ne suis pas instrumenté? Tous les jours, on a ces questions-là, en fait. Donc, il y a un vrai travail d'écoute, d'attente, de partage. Et mais je suis d'accord tout à l'heure avec ce que disait la jeune fille. Hein, c'est un extraordinaire... On ne peut pas tout faire avec ça. Hein. Bien sûr, chose qu'on ne peut pas faire. Et d'abord, il y a des écosystèmes qui ne sont pas accessibles au quidam. Comment travailler avec les gens de la rue sur les fonds à 3000 mètres, hein? Comment travailler sur la faune de la canopée, sur les très grands arbres dans la forêt tropicale, hein, qui part très vite. Hein. Allez voir le film de Francis Allais qui vient de sortir. Il a 78 ans. Il y a 18 ans, je suis à 50 mètres au-dessus du sol de la forêt, en Amazonie, en Afrique, en Asie du Sud-Est, à dessiner des arbres. Et là, il arrive encore à celui-ci, à 78 ans là-haut. Il fait 60 ans qu'il grimpe dans les arbres. Il dit en 60 ans, et ça me plaît en scientifique, c'est pas des stats, c'est une mémoire humaine. J'ai vu disparaître la moitié de la forêt tropicale. Ça, c'est des faits très clairs, et ça, il faut l'utiliser, ça, tous les jours, en fait. Hein, qu'on ne me dise pas, oh, c'est pas vrai, le déni, ou de toute façon... Non, non, ce sont des faits sur lesquels il faut qu'on revienne. Vous savez, la mémoire, elle est courte chez les humains. Hein. Plus le négationnisme qu'on peut avoir quelquefois. Hein. Je vais à Bornéo, là, au mois d'avril. À Bornéo, on a perdu plus de 50% de la forêt. Bornéo va être un champ d'arbres de palmiers à huile. C'est pas une forêt, un champ de palmiers à huile. D'ici très peu de temps, pour les usages qu'on a bien voulu en faire, effectivement. Comment est-ce qu'effectivement, on participe à cela? Même si on s'occupe de garder des orties dans le fond du jardin chez vous, et faites-le, mettez pas de saleté sur vos champs. On arrive à des paradoxes inouïs aujourd'hui du fait que le miel est bien de meilleure qualité au Jardin des Plantes à Paris que dans la banlieue parisienne en plein champ. Hein. Ça, c'est contre-intuitif, hein, je vous assure, c'est très net. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que beaucoup d'observations, si vous observez, vous apprendrez à aimer, et si vous aimez, vous aiderez bien sûr à protéger, pas forcément à conserver, parce que conserver, c'est pas le but de la manip. Hein. La nature, elle évolue en permanence. La nature aime le changement. Ce matin, je n'ai pas le temps de vous développer ça. Comment apparaissent ces espèces? Elles apparaissent quand ça change. C'était la théorie des équilibres ponctués de Gould qui disait, durant l'évolution, on a de grandes périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Et quand ça change, une éruption volcanique, le climat qui change, la température, des zones qui s'assèchent, il pleut moins, il pleut plus, il fait plus chaud, plus froid, hop, ça force le vivant à réagir par la spéciation. Et ça, on le voit très bien. Le ministère de mes moustiques ce matin à Londres, c'est ça, hein. En fait, c'est parce qu'on a créé des contraintes particulières qui font les moustiques qui ne seraient jamais allés se développer dans les cavernes de Londres à l'époque, s'il n'y avait pas eu le métro, qu'on chauffe l'hiver. Hein. Le retour de la biodiversité en ville, elle est là. Hein, à Paris, moi j'arrive souvent, malheureusement, je prends beaucoup d'avions, et j'arrive à Orly, il y a facilement 4-5 degrés d'écart entre Orly et le centre de Paris, et Jussieu. Hein. n'y a pas beaucoup de prédateurs. Il y a quand même un faucon pèlerin qui est revenu nicher sur les tours de Notre-Dame. Moi, j'étais super content. Le saumon atlantique, quand est-ce qu'il va revenir à Paris, hein? J'attends. Il n'est plus très loin. Oui, il y a la truite. Mais bon, le saumon, là, les saumons frayaient au Trocadéro, 1906. Hein, donc quand même, ça, c'est des mémoires aussi, ça. Donc ça veut dire qu'il y a la verticalité qui est bien utilisée par certains types d'espèces vivantes. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut urbaniser partout, mais gardons de l'espoir. En ville, on peut très bien cohabiter avec la diversité. Et le mal-être se mesure comme ça. Je me rappelle ce groupe de rock australien il y a quelques années, de gamins, qui chantaient, mais tellement mal-être. Leur chanson, c'était « Je détruis tout ce qui est vert, je marche sur tout ce qui est vert, je ne veux que du béton, du béton, du béton. » Si ce n'est pas une traduction totale du mal-être, ça, dites-moi ce que c'est. Hein. Et ça, ce n'est pas le PIB qui mesure ça. Hein. Donc c'est vrai que tout ça, il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Donc pour le prix de la non-intervention, oui, ça a été pas mal démontré. Hein, le rapport Chevassu en parlait aussi. Effectivement, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, hein, je vous ramène à des aspects historiques. Churchill qui parlait effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Si on ne fait rien, de toute façon, on aura les deux. Hein, on aura perdu, on aura la guerre en plus, c'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il faut bien qu'on intervienne pour qu'on soit capable, à l'avance, avec une culture de l'impact, d'éviter que ne se produisent des événements qui sont extrêmement délétères. Hein. Et en écologie, on a un principe. Mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai que là, c'est là que le monde médical, je lui en veux un petit peu, parce qu'il a pris qu'au bras le corps ces problèmes que très récemment en France, j'ai quelques copains médecins maintenant, hein, qui sont avec nous, au départ, on apprend à un jeune gamin qui fait... D'abord, il n'a pas un seul cours d'écologie en 7 ans d'études, alors qu'il est bourré de bactéries qui avec une merveilleuse écologie microbienne. Deuxièmement, ensuite, il apprend à guérir des gens malades, alors que la vraie manip, c'est de faire tout en sorte, y compris en pratique environnementale, pour que les gens ne soient pas malades. Et ça, c'est une culture entièrement différente. On montre que par l'écologie, aujourd'hui, on restaure une flore intestinale et on ne traite pas contre des bactéries. Les hélicobactères, par exemple, des choses comme ça, sont traitées. Même des maladies terribles comme le choléra. Vous rééquilibrez une flore intestinale et on traite sans antibiotiques qui ne marchent plus. On a perdu la guerre avec les antibiotiques. J'ai un ami qui est médecin en Val-de-Grâce. Il me dit tous les jeunes Français guerriers aujourd'hui qui reviennent des théâtres d'opération en Afghanistan, au Tchad ou au Mali, on revient avec des pathogènes ultra banals. Hein. C'est pseudomonas, aéromonas, staphylocoque, résistant à tout. Et à l'hôpital à Paris, ils sont comme ça. Hein. On le met dans une salle spéciale parce que ça peut être dramatique. Il y a des salles d'hôpital aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. On sait que si on ouvre un type là-dedans, il est mort. Il reste un être vivant. Et le seul être vivant capable de faire des écosystèmes à un seul être vivant, c'est bien l'humain. Hein. Une bactérie. Mais résistante absolument à tout et qui tue tout. J'ai un copain chirurgien, il me dit, je fais un truc quand c'est comme ça, moi, j'ouvre la fenêtre. C'est pas de l'écologie, ça, et ça marche très bien. Voilà, merci.